Nous sommes aux alentours de l'été 93, dans une boîte de jeux vidéo quelque part à Tokyo. À ce moment-là, la conception du futur phénomène planétaire de Nintendo avance à bon train, et ça fait un moment que les Capsule Monsters se nomment les Pocket Monsters. Le design des maps est établi, et les grandes lignes du jeu sont tracées. À ce moment-là, pas mal de créatures sont même déjà validées, 78 au total. Parmi elles, nous retrouvons Ectoplasma, Kadabra, Canartichaud, Liputu, les trois oiseaux légendaires, et quelques individus bizarres qui disparaîtront par la suite. Et parmi les Pokémon que nous connaissons aujourd'hui, certains possédaient encore un graphisme encore très différent, et pour le moins assez bizarre. Par exemple, Herbizarre justement, qui était à l'époque le seul représentant de sa famille, ressemblait bien plus à un vieux crapaud rabougri avec un palmier sur le dos qu'à ce qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est un peu l'esprit des Pokémon déjà créés à ce moment-là, des créatures ayant une apparence bien féroce et diversifiée, mais avouons-le, nous n'aurions aucune envie de faire un câlin à l'une d'entre elles. Ken Sugimori, le directeur artistique depuis le tout début et concepteur d'une grosse majorité des créatures de la première génération, l'avouera, il ne sait pas faire de Pokémon mignon. Et pourtant c'est bien lui à qui on a donné toute la responsabilité du bestiaire pour un jeu qui, comme le désirait Satoshi Tajiri, devra tenter d'attirer tout type de public pour réussir, notamment celui qu'ils appellent le public féminin. Et avouons-le, ce n'est pas avec Smogo, Soporific ou encore Tentacool qui réussiront à donner un côté kawaii aux Pocket Monsters. Et que dire du Pokémon qui semblait désigné pour être la mascotte du jeu, à savoir, à l'époque, Mélofée. Si aujourd'hui ses traits se sont bien améliorés, en 93 le Pokémon Fée ressemblait plus à un alien rose presque reptilien. Et comme c'était la créature la plus casual, il était prévu pour être l'icône des jeux dans un premier temps. Mais dans tous les cas, Game Freak se dirigeait pas mal vers un petit échec, puisque même la première introduction à ce nouvel univers risquerait de mal se finir en n'obtenant qu'une partie de la population. Fallait donc trouver d'autres idées de créatures, avec un esprit plus différent que les autres. Car après tout, Pokémon n'avait pas pour seule ambition d'être un moyen de faire combattre des grosses bestioles, mais aussi, comme le souhaitait Tajiri au départ, de permettre aux petits japonais de les collectionner. Donc il fallait vouloir les collectionner après tout. Et cela voudrait dire qu'il fallait un nouveau concepteur, avec un regard différent dans l'équipe. D'autant que Sugimori commençait déjà à être à court d'idées, donc un nouvel esprit créatif n'était pas du luxe, pour pouvoir atteindre au moins les 100 entrées. Et c'est donc dans cette optique que Sugimori et Tajiri décidèrent d'assigner un nouveau développeur de Game Freak sur ce nouveau jeu. Et plus particulièrement, une nouvelle développeuse, Atsuko Nishida. Nishida est à ce moment-là une jeune japonaise qui travaillait déjà depuis quelques mois pour Game Freak, puisqu'elle a participé à la conception graphique du jeu Pulseman. Mais avec ce nouveau rôle de chara-design, elle obtient la lourde responsabilité de proposer des Pokémon plus mignons, quitte à adoucir d'anciennes créations. Et l'une de ses premières créations, Goopix, a pu très vite confirmer ses compétences dans le domaine. D'autres suivront par la suite, comme les familles de Mystère Béchetiflore, Draco, Ponyta, Dardarnian, mais aussi ou surtout les trois starters, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Elle s'est aussi d'ailleurs occupée de leurs évolutions, en retravaillant notamment sur Herbizarre pour lui donner les traits plus attachants qu'on lui connaît aujourd'hui. Enfin, même si on ne sait pas exactement si elle a conçu une partie ou tous, elle s'est également occupée de la famille d'Evoli. En bref, vos Pokémon préférés de cette première génération ont peut-être été créés par Nishida, sans que vous le sachiez. En tout cas, beaucoup de ces Pokémon cités ont participé à la grosse hype des Pokémon par la suite, et pourtant, on continuera à principalement vanter les capacités de Ken Sugimori. Mais au moins maintenant, vous savez qui a permis à Herbizarre de devenir un Pokémon trop cool. Malgré tout, nous n'avons pas parlé du principal fait d'armes de Nishida, à savoir sa vraie première création pour la licence. Et celle qui l'aura le plus chamboulée d'ailleurs. La création majeure de Game Freak même. Car lors du début de son nouveau travail, en guise de première mission, on lui demanda dans un premier temps d'imaginer une famille de Pokémon électriques. Une tâche qui semblait banale à ce moment-là. On était à des années-lumière de penser que ce jour-là, on demanda à la jeune graphiste débutante venant tout juste de sortir un jeu japonais obscur d'imaginer tout simplement les traits de l'une des plus célèbres mascottes de l'histoire du jeu vidéo. Car oui, vous l'aurez peut-être compris, pour cette rentrée 2019, le Pokéfreak Show a décidé de se pencher sur le cas du Pokémon numéro 25, Pikachu. Salut à toutes, salut à tous. Ici Zeny pour le 19e épisode du Poké Freak Show. J'espère que votre été s'est très bien passé, tout comme votre rentrée. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année d'études de Pokémon. Et non, bien évidemment, cette année les objectifs de cette émission restent les mêmes. Nous allons, comme l'année dernière, parler tous les 15 jours de Pokémon peu appréciés ou oubliés. Mais attends voir, il y a un truc qui cloche là. Du coup, en quoi Pikachu a sa place dans cette émission ? Parce qu'on parle quand même d'aujourd'hui du Pokémon le plus connu de tous les temps en fait, l'équivalent de Mickey au Japon pour certains. Pour le coup, quand on pense à Pokémon, on pense directement à lui. Il est le principal protagoniste de l'anime avec Sacha, le héros de plusieurs jeux, et il a même donné son nom à une protéine dans le monde réel. Donc clairement, Pikachu est le contraire absolu d'un Pokémon inconnu. On ne peut pas le comparer à Shaglam ou Netram déjà fait par exemple. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de lui pour cette rentrée des classes ? Car au fond, certes, c'est le Pokémon le plus connu, la mascotte, tout ça tout ça. Même au-delà, beaucoup diront que c'est leur Pokémon préféré. Pikachu a une aura gigantesque et un grand pouvoir. Mais bon, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Car en réalité, en devenant la mascotte, Pikachu est aussi devenu le Pokémon le plus globalement détesté de tous les temps. Comment ça ? De quoi je parle ? Eh bien, nous développerons ça dans un second temps. Mais pour le moment, revenons sur sa genèse. Au départ, la seule tâche qu'on donna à Atsuko Nishida au courant de l'année 93 fut de créer une famille de Pokémon électriques. Rien de plus, c'est tout ce qui lui avait été demandé. Tout était à créer donc, que ce soit les origines et les idées de conception. La première ébauche de Pikachu fut d'ailleurs totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il possédait au départ les formes d'un Daifuku. Qu'est-ce qu'un Daifuku ? Le Daifuku est une sucrerie japonaise faite de riz gluant et possédant des haricots rouges sucrés en son cœur. Cette sucrerie peut, tout comme le mochi, être associée à une saveur genre un fruit. Mais la particularité des Daifuku est d'être totalement malléable et de pouvoir très facilement changer sa forme. Ce dessert est donc souvent sujet à quelques fous créatives, pouvant ainsi obtenir des traits d'un petit animal avec de longues oreilles en pâte d'amande, par exemple. Et visiblement, c'est la forme que Nishida donna à Pikachu dans un premier temps. Bien que cette première esquisse faite en pixel art possédait un côté attachant, il fut tout de même rejeté car on ne réussissait pas à distinguer sa tête et son corps. Koji Nishino, un autre concepteur de Game Freak qui, pour la petite anecdote, a donné ses traits à Ronflex, lui suggéra de faire quelque chose d'encore plus mignon. C'est alors que la création de ce Pokémon prit un tournant déterminant, puisque Nishida choisit enfin d'inclure le côté électricité dans l'équation. Et plus précisément, elle prit la décision d'utiliser l'électricité statique, à savoir les charges générées depuis des contacts, notamment avec les fourrures d'animaux. Toute l'énergie de cette nouvelle créature viendrait alors de sa fourrure, et serait alors stockée dans une partie de son corps bien précise. Et pourquoi pas les joues ? D'un point de vue esthétique, c'est pas mal d'imaginer des éclairs qui sortiraient des joues de cette nouvelle créature. C'est alors que le Daifuku changea d'inspiration, et Pikachu se transforma dans un premier temps en écureuil. On en est encore très loin de la souris électrique, mais à la fois c'était une décision logique. En effet, tout comme les autres rongeurs, les écureuils ont la particularité de pouvoir stocker beaucoup de nourriture dans leur bouche. Mais contrairement aux autres rongeurs, toute sa nourriture se concentre ensuite sur les côtés de sa bouche pour donner une impression de grosses joues bien arrondies. Rajoutez à ça le fait que les écureuils sont des animaux plutôt communs au Japon et que Nishida trouvait que lui donner une grosse queue était pertinente. Et vous réaliserez que, effectivement, Pikachu possède encore aujourd'hui des traits de cette inspiration. Et c'est drôle de se dire que si ça se trouve, Pachirisu est l'ébauche de Pikachu. Mais du coup, comment cet écureuil au trait de Daifuku est-elle devenue une souris ? Eh bien en réalité, tout ça vient du choix de son nom, Pikachu. Choisi par Satoshi Tajiri lui-même, ce nom vient de deux onomatopées, Pika Pika qui désigne un peu les grésillements d'une étincelle, et Chuchu qui est le bruit que fait une petite souris. Cela donne donc Pikachu, Et c'est l'étymologie canon de ce Pokémon. Aucune autre n'est vraie. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le nom de Pikachu vient des jeux Shotonidae, une espèce de souris dont le nom commun est le Pika, vous pouvez lui dire que c'est complètement faux. Dans tous les cas, avec ce nouveau choix, Pikachu prit plus les formes d'une grosse souris. Donc on arrive à la fin de la conception de Pikachu. Une souris avec une queue et des joues d'écureuil, et des oreilles et une morphologie grassouillette qui rappelle sa période de Daifuku. On lui a rajouté également des traits sur le dos pour qu'il paraisse moins vide, et une couleur jaune pour des raisons évidentes de type électrique. On découvrira plus tard que cette couleur jaune a été déterminante, puisqu'il y a peu de symboles de cette couleur dans la pop culture. Mais surtout, et c'est ça sa plus grosse particularité, Pikachu est avant tout un Pokémon mignon. Donc, mission totalement accomplie pour Nishida. Il est devenu tellement mignon qu'il est devenu le favori de Koji Nishino, qui s'occupait à ce moment-là de la conception des cartes et de la répartition des Pokémon dans les hautes herbes du jeu. Son amour pour Pikachu était à ce moment-là si fort qu'il envisagea dans un premier temps de le cacher pour le garder pour lui. Il dut finalement se résigner, mais choisit plutôt de le rendre super rare dans la forêt de Jade. En tout cas, Pikachu a quasiment fait l'unanimité dès sa conception et se retrouvait premier de tous les sondages en interne de la boîte. Un Pokémon avec un potentiel gigantesque venait d'être créé. Alors avant de continuer, petit aparté sur son évolution. Car on n'avait pas demandé à Nishida de créer un seul Pokémon électrique, mais toute une famille. Donc après Pikachu est arrivé Raichu, son évolution en utilisant une pierre foudre. Et si on retrouve beaucoup de traits de Pikachu sur lui, Raichu a une apparence plus féroce pour bien faire penser à la foudre. Il s'inspire également dans une certaine mesure des chinchillas, notamment au niveau de sa queue. Bref, Raichu a volontairement une apparence de Pikachu plus mature et plus apte à combattre, comme le soulignait bien l'épisode 14 de l'anime, où le Pikachu de Sacha s'attaquait au Raichu du Major Bob dans un combat sans merci. Mais ne nous attardons pas trop, car il y a un sujet beaucoup plus important dont il faut absolument aborder, et c'est celui de Gorochu, car figurez-vous qu'au départ, Raichu devait avoir une évolution. Quand je dis qu'on assigna la tâche de créer une famille électrique à Nishida, en réalité on lui a demandé de créer une famille de 3 membres, et le troisième se nommait alors Gorochu. On ne possède que très peu d'informations sur ce Pokémon perdu, si ce n'est qu'il devait avoir l'air encore plus féroce que Raichu. En vrai, il se raconte que son apparence s'était inspirée des Oni, des divinités japonaises, dont Electek tire aussi les traits. À part ça, on sait qu'il avait des crocs et des épines partout, mais c'est tout ce qui nous est parvenu. Gorochu est bel et bien un Pokémon perdu dans les limbes des archives de Game Freak. Mais il est bon à savoir que Pikachu aurait pu avoir une version finale surpuissante, qui a été finalement supprimée pour des raisons d'équilibrage du jeu. Après, depuis la première génération, la famille s'est quand même bien agrandie avec l'arrivée de Pichu dans la deuxième génération, puis celle du cousin d'Alola de Raichu, chacun de ses membres ayant d'ailleurs connu un succès assez fort à leur sortie. Mais revenons dans le passé, puisque les jeux Pokémon Rouge et Vert sortent tout juste en 96 au Japon, avec le succès relatif qu'on lui connaît. Et si dans ces versions, Pikachu ne récupère pas non plus une aura bien singulière, bien que tous les guides du jeu conseillaient aux joueurs d'en trouver un, c'est bien dans les produits dérivés qu'il se démarquera. Tout d'abord dans le manga Pokémon Pocket Monster, paru sur les pages du Korokoro en avril 96. Au départ, ce manga devait mettre en avant Mélofée, la mascotte initiale de la franchise, à travers une itération parlante et avouons-le, insupportable. Mais au final, le Pikachu du héros lui vola un peu la vedette, ce qui était un peu la prémisse de ce qui allait arriver ensuite. Car évidemment, le gros boom et la consécration de la souris électrique arrivera vraiment l'année suivante, le 1er avril 97, avec tout simplement le premier épisode de l'animé Pokémon. Au départ, il était initialement prévu que Sacha parcourt ses grandes aventures avec un, je vous le donne dans le mille, Mélofée. Ce qui aurait, à mon sens, eu une saveur assez différente à ses aventures. Mais c'est le réalisateur de la série, Kunihiko Yuyama, qui prit la décision de lui donner un Pikachu. Ce fameux Pikachu qui sera son compagnon durant de longues saisons, avec des traits plus qu'attachants, grâce notamment à la voix de sa talentueuse comédienne, Ikue Otani. Et à partir de ce moment-là, ce fut la voix royale pour Pikachu. Produits dérivés, autres mangas, peluches et figurines, tout ça rien que pour cette souris électrique. À la surprise de Sugimori qui pensait que son attrait serait perceptible qu'au Japon, Pikachu garda quand même son aura lors de l'exportation de la licence aux USA et en Europe. D'ailleurs, il est intéressant de noter que de par son statut, il fait partie de ces quelques Pokémon ayant réussi à garder son nom japonais partout dans le monde. Ce qui aurait été difficilement le cas pour Melofey, même s'il avait gardé ce statut, vu qu'au pays du soleil levant, il s'appelle Pipi. En 98, en réponse au succès planétaire de l'anime, Pikachu devint le héros de son propre jeu à travers Pokémon Jaune. Un jeu avec une saveur toute particulière auprès des fans, car en plus on pouvait obtenir les 3 starters et introduisait pour la première fois l'idée de bonheur pour un Pokémon. Par la suite, Pikachu a pas mal évolué au fil des années, la popularité lui ayant fait perdre pas mal de poids. Mais il reste tout de même, 25 ans après sa création, le symbole de Pokémon. Tous les produits dérivés sont accompagnés de sa petite bouille, avec même un deuxième jeu lui ayant été consacré plus tard, Let's Go Pikachu en 2018. Il fut également le héros du tout premier film Pokémon en live action, à savoir Détective Pikachu, mais surtout il aura très souvent dépassé sa licence mère. On le retrouve notamment dans pas mal d'autres œuvres culturelles du monde entier, comme par exemple le jeu de combat de Nintendo Super Smash Bros, où il est membre depuis le premier opus avec Rondoudou, ou même dans la série américaine Les Simpsons. En 2008, une protéine a même été appelée Pikachurine par l'Institut de Biosciences d'Osaka pour désigner une particule qui s'occupe de la communication entre l'œil et le cerveau. En 2001, il apparaît dans des pièces de monnaie sur l'île de Niue, et surtout en 2014, il devient rien moins que la mascotte de l'équipe de football japonaise lors de la Coupe du Monde. Au départ d'un simple Pokémon basique ayant pour but de donner une pointe de kawaii à Pokémon, il est devenu plus qu'une mascotte, carrément l'ambassadeur de Pokémon dans le monde. L'anthropologiste Anne Allison dira même qu'il s'agit de l'équivalent de Mickey Mouse au Japon. Bref, d'apparence, aucune ombre ne semble se pointer sur ce tableau. Et pourtant, malgré cette success story planétaire, Pikachu a aussi récolté quelques casseroles. Car s'il est l'ambassadeur de Pokémon auprès des fans, il est aussi, hélas, celui sur qui on tape le plus quand on veut taper sur Pokémon. Ou même sur la culture pop japonaise en règle générale. Ce fut le cas notamment dans l'épisode Chim Pokémon de South Park, où il a bien été ridiculisé pour symboliser l'hégémonie de la culture japonaise dans le monde. Mais je me souviens surtout de toutes les fanpages durant la Pokémania qui proposaient des dessins de Pikachu torturés et ensanglantés pour montrer qu'il se ferait pas avoir par cette conquête culturelle. Car au fond, on a beau avoir de la compassion pour d'autres Pokémon comme Insolordo ou Trousselin, au final, le Pokémon qui a le plus été traîné dans la boue, eh ben c'est bel et bien notre pauvre petit Pikachu. Et même du côté des fans, même si on ne peut qu'avouer ses qualités esthétiques, son côté mascotte a tendance à nous en dégoûter. Outre des personnes qui connaissent Pokémon vite fait, est-ce que vous connaissez des personnes qui vous diront que Pikachu est leur Pokémon préféré ? Bref, tout ça pour dire que Pikachu est, à mon sens, le Pokémon le plus globalement détesté par la population mondiale, pour toutes les raisons citées précédemment. Il a la haine de tous ceux qui détestent Pokémon, mais aussi reçoit un brin de mépris des principaux fans de la licence. Ce qui est plutôt triste pour un Pokémon aussi bien travaillé et qui n'avait aucune réelle ambition de conquête du monde. Mais au final, est-ce que ce phénomène peut s'expliquer ? Est-ce qu'il aurait pu être évité ? À quoi aurait ressemblé le monde si Melofey était resté la mascotte du jeu ? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions très vite, mais avant de passer à de nouveaux bails, je vous propose de faire une petite pause. Parce que ça fait du bien de temps en temps de couper un peu. Et comme nous sommes dans l'épisode de Pikachu, je vous propose qu'on s'écoute le Pikasong, une musique qui a fait le buzz comme le disent les jeunes, suivie d'une bande-annonce de Radio Kawa.
Okay. Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.
On se retrouve donc pour l'épisode 19 du Poké Freak Show. Et avant de revenir sur notre petite souris électrique favorite, je voulais vous parler très vite fait d'une nouvelle émission qui va avoir le jour sur Radio Kawa le mois prochain, Radio Kalos. Et oui, car c'est bien beau de revenir sur les Pokémon du passé, c'est bien aussi de parler du présent et de la franchise. C'est pourquoi tous les deux mois, Cthutu, rédacteur sur le site du Pokéweb Eternia et moi-même, vous retrouverons désormais pour 2 heures d'actu Pokémon, avec des débats, des dossiers, des jeux et des discussions interminables, le tout accompagné de 3 invités charismatiques à chaque édition. Donc, je vous invite très fortement à nous rejoindre sur le direct le 18 octobre prochain sur Radio Kawa. Bref, revenons à nos moumoutons. Donc nous en étions sur la popularité à double tranchant de Pikachu. A la fois c'est la mascotte et même l'ambassadeur de la licence Pokémon, et je suis sûr qu'il est même autant connu que Jésus. Et en même temps, malgré toutes ses très grosses qualités connues et reconnues qui révèlent très bien de la très grosse qualité de conception de Hatsuko Nishida, il est loin de faire l'unanimité. D'une part parce que justement il symbolise Pokémon auprès des gens qui méprisent la licence, d'autre part parce qu'il est trop reconnu pour le public. Alors très clairement, le premier cas est regrettable, mais hélas logique. On ne reviendra pas trop sur les raisons pour lesquelles on peut détester Pokémon, je pense qu'elles sont suffisamment multiples. Mais dans tous les cas, si tu détestes Pokémon, t'auras forcément plus tendance à insulter le Pokémon le plus connu plutôt que Tauros ou Hypnomad par exemple. Cependant, le second cas est plus bizarre vu de l'extérieur. En gros, on n'aime pas, ou en tout cas on aime moyennement Pikachu, parce qu'il est trop populaire. Dit comme ça, ça paraît ultra naze, mais en vrai c'est assez révélateur d'une tendance bien ancrée dans le 21e siècle. J'ai bien envie de dire, une tendance quasiment exclusive au 21e siècle, tant je n'ai pas réussi à trouver une vraie étude sociologique à ce sujet, alors que c'est quelque chose de totalement observable aujourd'hui. Même si, il est vrai, on peut l'élargir à toute forme de contre-culture du 20e siècle. Je parle bien sûr du concept de refuser, voire mépriser, les concepts populaires, ou en d'autres termes, le fait de pas aimer les choses qu'on nomme mainstream. En gros, aujourd'hui, il y a une sorte de règle qui régit la culture populaire en Occident, c'est que plus quelque chose est populaire, plus il se fera juger par le public. C'est un peu le cas de pas mal de groupes de variétés qui auraient pu être réduits à l'ignorance de ses détracteurs, mais comme le marketing les a propulsés au sommet du jour au lendemain à coups de chars d'assaut, bah ils deviennent très vite les référents quand on parle de musique inaudible. Justin Bieber et les One Direction en premier plan par exemple. C'est le cas aussi avec les mangas où Naruto se fait pas mal juger, les jeux vidéo avec, bah évidemment, Fortnite et Minecraft, et puis aussi bah les films. Je veux dire, le film Avatar de James Cameron, il est franchement grandiose et constitue une vraie révolution visuelle à son époque. Mais comme il a été survendu, les gens ont cherché la petite bête pour bien descendre le truc, à savoir son scénario. Et je pense que vous trouverez beaucoup de gens qui détestent Star Wars et le Seigneur des Anneaux juste parce que c'est populaire aussi. Du coup, c'est un peu ce qui est arrivé à Pikachu au fond. Ce Pokémon est parfait en tout point, comme je l'ai dit aux premières parties. Chacun de ses pixels répond à des problématiques, ce qui le rend à la fois complexe de par ses origines et possédant une harmonie rare. Même le fait qu'il ait perdu du poids est cohérent. En fait, c'est un syndrome qu'on retrouvait déjà dans les années 30 avec Félix le chat et dans les années 50 avec Bugs Bunny, où des animaux quadrupèdes ont commencé à avoir un aspect plus anthropomorphe à partir du moment où ils sont devenus des symboles. Et on devient plus malléable, entre guillemets, donc pour les produits dérivés, c'est tout bénef. Mais à la fois, bah c'est vrai que Pikachu, on le voit partout. Quel que soit le produit de Pokémon, bah on voit sa tête, même pour faire la promotion d'une nouvelle génération. Même dans celle de Noir et Blanc, version où il n'est même pas dans le Pokédex national, il faisait partie intégrante de toute leur com. C'est vrai que dans un jeu possédant plus de 800 espèces, c'est dommage qu'ils prennent autant de place en fait. Forcément, les fans choisiront d'aimer d'autres Pokémon et de rétrograder Pikachu très loin dans leur classement personnel. Pour prendre comme exemple, Raichu est très clairement plus populaire que Pikachu, alors qu'ils partagent quand même beaucoup de traits. Par individualisme ou par volonté de mettre en avant d'autres créatures de poche, sans doute. D'ailleurs, au fond, je pense que c'est aussi ça qui a dégoûté pas mal de gens à Pokémon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon épisode sur Morpheo, où j'avais fait une très chouette introduction sur la Pokémania, mais le forcing avec la licence qu'on a connue était sans doute beaucoup trop abusé. Cela a forcément dégoûté beaucoup de gens qui de base n'étaient juste pas compatibles avec la licence, créant alors ce dégoût en haine absolue. Et comme je l'ai dit plus tôt, le premier qui en a fait les frais, c'est Pikachu. Bref, ce que nous apprend Pikachu, c'est que la popularité est à double tranchant, même pour des concepts issus d'univers fictifs. À trop en abuser, on finit par gâcher un très chouette potentiel. Pikachu continuera de plaire aux joueurs plus casual, mais les autres, plus anciens, ont préféré se pencher sur d'autres créatures. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il y a un truc marrant à noter, et c'est sans doute la preuve que le public de Pokémon a été très iconoclaste sur ce coup. C'est qu'actuellement, un autre Pokémon suit le même tracé que la souris électrique. Un Pokémon qui était très populaire dès le début, et qui avait une très grosse fanbase, au sein de la communauté de Pokéfan, et qui a d'ailleurs également été designé par Nishida. Mais le problème c'est que Game Freak l'a compris et en a fait la seconde mascotte du jeu, jusqu'à partager l'affiche avec Pikachu dans la série Let's Go. Je parle, bien sûr, d'Evoli. Evoli, on va pas se le mentir, a très vite plu aux fans dès le lancement de Rouge et Vert. À la fois pour son côté overcute, comme pour son concept génial. Pokémon capable de s'adapter à son environnement pour par la suite évoluer en fonction de ses besoins, ça fait pas mal envie, et à part peut-être Nymphalie dont nous parlerons un jour, chacune de ces évolutions, que le public a appelées évolutions, possédait une bonne aura. Mais bon, la Pokémon Company a compris le truc et a commencé à le mettre un peu trop en avant, ce qui a pas mal, avouons-le, redistribué les cartes. Cet exemple est assez révélateur de l'équilibre dont je parlais avant. Puisque notre petit Evoli a fini par sortir de l'ombre de la mascotte du jeu et à subir toutes les responsabilités que ce dernier tenait sur son dos. Et au fond, on peut se poser cette question. Est-ce que la destinée d'Evoli n'est pas celle qui a failli avoir Pikachu? Si Uyama avait pas choisi Pikachu mais était resté sur Melofé pour prendre les devants dans l'animé, est-ce que Pikachu aurait été bien plus populaire qu'aujourd'hui? On pourrait penser qu'on ne saura jamais répondre à cette question car on ne peut pas réécrire le passé. Mais au fond, je pense que nous possédons tout de même un élément de réponse, puisque s'il est devenu la mascotte de la licence la plus lucrative de tous les temps, et qu'il est devenu un personnage emblématique de l'univers des jeux vidéo, c'est bien que beaucoup de personnes l'ont choisi, non? Bref, Pikachu est sans doute l'un des Pokémon les plus complexes sur lequel je me suis penché lors de cette émission. Contrairement à la plupart des autres spécimens, Pikachu n'est pas détesté pour son contenu de base, mais à cause de son histoire au sein de la licence. Mais malgré tout, il y a une chose dont on ne peut pas lui retirer, car après tout, le 5 septembre dernier, nous avons fêté les 20 ans de Pokémon en France. Une date anniversaire très importante et très symbolique qui nous renvoie à très très loin. Certains d'entre vous y étaient, d'autres non, et je suis sûr que certains étaient même pas nés en 99. Mais si vous êtes ici, c'est qu'il y a bien eu un moment, le moment précieux dans votre vie, où vous aviez eu le premier contact avec l'univers de Pokémon. Que ce soit via l'animé, le jeu vidéo, les cartes, même via un spot publicitaire ou de bouche à oreille tout simplement. Quel que soit notre âge et notre milieu social, il y a eu ce moment où nous avons été introduits dedans. Et lors de cette introduction, quel que soit le support de départ, elle était là, avec son regard innocent et sa queue électrique, cette petite souris jaune venant nous accueillir avec son sourire si chaleureux. Elle a été là dès le début. Et jusqu'à aujourd'hui, il nous a suivis lors de grandes aventures. On en est peut-être dégoûté aujourd'hui, on essaie peut-être de l'ignorer, ou peut-être même que vous faites partie de ces personnes qui l'aiment depuis le premier jour. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Pikachu et son ami Sacha ont été notre comité d'accueil dans cet univers riche et gigantesque. Et c'est pour ça vraiment qu'on l'aime.
Pika Pika !
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'est terrible parce que j'ai l'impression d'avoir oublié de dire tellement de choses tant Pikachu est un Pokémon qui dépasse complètement la licence même. En vrai, si je voulais vraiment tout dire, cet épisode aurait duré des heures. En tout cas, Pikachu est un Pokémon inspirant, on ne veut pas le nier. Il sait nous donner goût aux nouvelles inventions de Game Freak et est beaucoup plus utilisé dans la pop culture. Mais il y a un autre truc assez intéressant à dire sur lui qui est... Il a quand même inspiré pas mal d'autres Pokémon. On n'est pas trop parlé, mais en plus de Pichu et Raichu, Pikachu a une énorme armée de clones. que ce soit Deden, Emolgar, Posipi et Negapi, voire même le fameux Picablou connu sous le nom de Maril, ou tout simplement le dernier en date, Morpeko. Chacun d'entre eux est assez différent et possède des particularités uniques, mais à la fois on les renvoie trop à leur modèle, ce qui fait qu'ils sont pas mal dénigrés quand même. Et si nous nous penchions sur ces 8 petits rongeurs dans 15 jours? Dans tous les cas, ces créatures étaient parfois même vendues comme les mascottes de leur génération. Ce fut notamment un peu le cas avec Deden pour la 6G. C'est un peu logique aussi vu qu'ils s'inspirent directement de LA mascotte du jeu. Mais au fond, est-ce que Pikachu était la meilleure mascotte possible? Selon vous, si nous étions dans un monde où tous les Pokémon étaient sortis en même temps, qui serait, selon vous, le meilleur ambassadeur possible de la licence? Pas forcément votre Pokémon favori, mais plus celui qui serait la meilleure introduction à l'univers Pokémon, selon vous. N'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire ou sur le Twitter de l'émission @PokéFreakShow. Dans tous les cas, le PokéFreakShow est une émission produite par Radio Kawa, et n'hésitez surtout pas à passer sur notre Patreon si vous voulez soutenir l'émission ou toutes les autres, et notamment, au hasard, le Radio Kalos. Et si vous voulez écouter les épisodes de la dernière saison du PFS, ils sont tous disponibles sur le site de Radio Kawa. Dans tous les cas, je vous dis à 15 jours pour le 20e épisode du Poké Freak Show. Ciao!
J'ai tué ton père.
Non, je déconne, c'est une autopromo pour un podcast.
Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur RadioKawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs.
Super sympa.
Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite. Et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité. Et c'est un vendredi soir sur deux dès 21h sur Radio Kawa.
C'est complètement nawak.
Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père.
Il est quelle heure ?